Chers amis, un nouveau podcast des Jeudis de Corbera sur un thème qui aujourd'hui est évidemment un thème majeur qui percute l'actualité, la vie de nos concitoyens, c'est le narcotrafic. Nous avons deux intervenants. D'une part, le sénateur Jérôme Durin, qui est sénateur PS de Saône-et-Loire, qui par ailleurs a été le président d'une commission d'enquête sur le narcotrafic et évidemment qui a élaboré une stratégie pour sortir de ce qu'ils ont appelé le piège du narcotrafic. De l'autre côté, nous avons avec nous une magistrate, Hélène Franco, qui d'une part a été présidente du syndicat de la magistrature, responsabilité, non c'est présidente ou secrétaire générale, c'est une responsabilité qu'elle n'a plus aujourd'hui, mais elle reste une magistrate de terrain, confrontée à ces sujets avec des expériences variées dont elle nous parlera. Je vous propose donc qu'on commence par écouter le sénateur Jérôme Durin sur l'état du narcotrafic, puisque la première des choses avant d'agir et de modifier les politiques publiques et nos comportements, c'est d'avoir une analyse lucide de la situation. Donc Jérôme, je te donne la parole et te remercie encore de bien vouloir participer à ces Jeudis de Corbera.
Merci Marie-Noël. Très heureux d'être dans ce duo de travail sur la question du narcotrafic, question très importante. Cette commission d'enquête que j'ai eu la chance et l'honneur de présider, elle est partie de Marseille, avec les narcomicides des années 2022-2023, 49 morts en 2023, près de 80 sur les deux années. Et la question qui était posée, c'est comment on mettait fin à la situation marseillaise. Et puis finalement, quelques mois après notre début de travail, ces 6 mois de commission d'enquête, ces nombreuses auditions, ces déplacements, le sujet marseillais il passe au second plan parce qu'on se rend compte que la question du narcotrafic, elle intéresse tout le pays. Les quelques phénomènes majeurs qu'on peut documenter à l'issue de cette commission d'enquête, c'est une extension territoriale du phénomène qui concerne évidemment les grands quartiers, les cités, ce qu'on imagine a priori être le narcotrafic, mais aussi des villes moyennes et la France des sous-préfectures, des villages ruraux qui sont aussi touchés. Alors la consommation, ça n'est pas nouveau, puisque d'une certaine manière, tout le monde consomme. Hein, quand on voit les chiffres de consommation, notamment pour le cannabis à l'échelle nationale, il y a des consommateurs partout. Mais ce qui est nouveau, et ce qu'on a découvert, c'est que les phénomènes criminels qui sont associés au narcotrafic se produisent partout. Des morts à Dijon, à Besançon, des morts dans des petites communes, puisqu'il y en avait eu un à Verdun. Cet été encore, l'affaire de la cité des Moulins. On a aussi un phénomène qui est très présent dans l'actualité en ce moment, c'est le rajeunissement ou l'ultra-rajeunissement des auteurs et des victimes d'actes criminels. Et le narcotrafic est devenu, c'est un terme qu'avait utilisé l'OFAST à l'époque, une infraction mère ou une infraction matrice. C'est-à-dire que ce narcotrafic, et on le voit bien d'ailleurs dans la mutation des activités de la DZ Mafia, un des clans majeurs du narcotrafic en France qui est basé à Marseille, il y a une extension du trafic et de la criminalité autour des stupéfiants vers des extorsions, vers des enlèvements, des séquestrations, des choses qui sont liées au trafic ou qui sont à sa périphérie, avec des groupes criminels qui versent dans une forme nouvelle de criminalité organisée. Donc extension territoriale, rajeunissement des criminels et des victimes, un phénomène de corruption qui accompagne ce trafic. Alors on parle de corruption de basse intensité, c'est un terme qui n'est pas très clair, mais ça veut dire que les narcotrafiquants ont des moyens illimités, je pense qu'on y reviendra parce que c'est une réalité, moyens financiers, moyens technologiques, abandon de l'esprit des lois, hein, déjà transgression de la loi républicaine, qui est la première des asymétries. Et avec ces moyens, ils peuvent corrompre tous ceux qui sont utiles au trafic. Alors, on peut répartir ça en deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui sont utiles à l'acheminement du produit, au trafic lui-même, à la vente, à la distribution, à la logistique. Donc ça peut être des douaniers, des policiers de la police de l'arrêt des frontières, des dockers, et puis tous ceux qui sont utiles à leur impunité, à savoir un greffier, un gendarme ou un policier qui vont consulter des fichiers. Voilà. Donc on a bien ces deux éléments qui caractérisent une corruption dont les administrations d'ailleurs ont peine à prendre la mesure, parce que en fait c'est une corruption qui est à peine visible. Elle n'est pas centrale des consultations de fichiers, on est très peu outillé pour les observer. Des destructions de documents, ça ne se voit pas. Une pièce de procédure qui est oubliée, qui s'en rend compte. La corruption dans la pénitentiaire, elle est difficile à observer. On sait qu'elle est présente partout. Voilà. Donc c'est un phénomène qui est assez central. On a par ailleurs dans les éléments de contexte le rôle de la prison et de la difficulté à réguler la prison, et en tout cas à juguler ce qui se passe et qui intéresse le narcotrafic en prison, qui est à la fois la gestion des trafics, des réseaux, des points de deal, de l'organisation, de la distribution de la drogue, et puis des assassinats qui sont commandités depuis la prison. Les deux jeunes Marseillais qui étaient impliqués ou victimes dans la quinzaine de jours qui vient de s'écouler de cette violence des stupéfiants, des narcotrafiquants, elle était commanditée depuis la prison. Dernier élément qui est quand même très intéressant dans le trafic, c'est les formes que prend la consommation, la distribution. On a quand même une submersion du pays par la cocaïne, puisque la cocaïne a été multipliée en production par 3 dans les 10-15 dernières années. 1000 tonnes qui arrivent sur nos côtes, notamment dans les ports, principalement dans les ports Anvers, Rotterdam, Le Havre et maintenant des ports secondaires. On a une ubérisation de la distribution avec l'Ubersheet, qui signale et qui témoigne de l'influence des réseaux sociaux dans le trafic. Réseaux sociaux qui ont en gros 3 utilités. La distribution, puisqu'on a des QR codes qui renvoient vers des boucles Telegram, des boucles WhatsApp, qui sont maintenant vendus en tant que tels comme des fonds de commerce. On a vu à Rennes il y a peu de temps qu'un point de deal était vendu 3 millions d'euros. Mais une boucle Telegram avec une clientèle, c'est vendu comme un fonds de commerce traditionnel. On a un deuxième aspect qui est le recrutement des collaborateurs du trafic, avec notamment les mineurs. On l'a vu d'ailleurs là encore dans l'affaire marseillaise, hein, des gamins qui sont recrutés sur des boucles pour soit aller être chouf, charbonneur à l'autre bout de la France, soit être tueur dans des affaires de règlement de compte. Et puis le dernier point qui est très important, et culturellement je pense qu'il faut qu'on s'y attarde, c'est la question de la régulation RH des réseaux. Alors soit des adversaires, soit de ses propres troupes, par des actes de violence, des actes de barbarie, puisqu'il y a un peu partout des salles de torture, je ne vais pas exagérer le phénomène, mais c'est des pratiques qui sont assez ordinaires malheureusement, avec ce qu'on a appelé la jambisation, hein, c'est le fait d'estropier des membres des clans pour leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas carotter ou qu'ils doivent rester bien présents dans le clan, ou pour impressionner d'éventuels concurrents. Donc cette dimension-là, elle est importante parce que je pense que ça conditionne aussi un certain nombre de gamins, notamment vis-à-vis d'une forme de violence qui est exacerbée, qui est complètement décomplexée et à laquelle on a affaire malheureusement ces jours-ci. Je termine par la question du blanchiment. Le blanchiment qui est complexe, qui est difficile à enrayer, parce qu'il prend des formes technologiques, les crypto-monnaies. Il prend des formes ultra-traditionnelles avec des chambres de compensation type Hawala. Et puis des formes plus classiques, des valises de billets qui circulent par exemple par le centre de gros d'Aubervilliers, le CIFA d'Aubervilliers, ou qui passent éventuellement par le blanchiment local dans l'économie locale. On nous disait dans le sud de la France que le BTP, la restauration, les entreprises de sécurité sont des entreprises qui sont friandes de l'argent du narcotrafic. Voilà, donc toute une série de phénomènes qui pris isolément ne sont pas nouveaux, qui ne sont pas tous spectaculaires, mais qui sont très inquiétants sur l'ampleur que prend le narcotrafic dans la société française.
Alors, peut-être demander à Hélène, qui donc elle est sur, a été et est sur le terrain, comment tu observes, toi, dans ta fonction de magistrat, cette évolution du narcotrafic.
Alors, bon, moi, je voudrais pas tomber évidemment dans les généralités, mais je pense qu'il faut commencer par des généralités pour aller vers le spécifique. La première généralité, c'est que il y a pas de société sans drogue. Il y a pas de société sans recherche finalement d'effets psychotropes de telle ou telle plante, et puis ensuite de recherche d'ailleurs d'utiliser des possibilités pour chaque plante pour augmenter ses potentialités soi-disant, ou pour en tout cas inventer des paradis artificiels. Alors on peut penser aux Mayas, on peut penser aux Égyptiens anciens, on peut penser à d'autres civilisations très très anciennes, et on retrouve ça, c'est documenté, et juste en Chine, la Chine des Ming, enfin que sais-je. Ça veut dire qu'on s'inscrit quand même dans un phénomène d'abord extrêmement ancien historiquement, et puis un phénomène mondial. Au plan mondial, l'ONU l'an dernier a considéré que le trafic de stupéfiants c'était en gros 250 milliards de dollars hein, par an. Voilà. Donc c'est plus que le PIB de la Finlande, de la Colombie, enfin voilà. Donc c'est quand même à ce niveau-là que la question se pose. Nous ne sommes pas une île, nous.
Une partie de notre territoire sont des îles.
Mais nous avons effectivement des Outre-mer, et on y reviendra peut-être, qui sont particulièrement concernés. Je n'ai jamais exercé moi-même en Outre-mer. En revanche, je peux dire que depuis mon premier poste, il y a déjà bien plus d'un quart de siècle à Valenciennes, cette question-là me poursuit, si je puis dire, à Valenciennes, parce que c'était limitrophe de la Belgique et d'autres pays, et que c'était un point finalement de passage à l'époque essentiellement et pratiquement uniquement de cannabis.
Oui. Hein,
je peux le dire. Il y avait des héroïnomanes, d'ailleurs il y en a toujours, mais la consommation d'héroïne n'a pas beaucoup bougé finalement. C'est celle qui a le moins explosé ces 25 dernières années. Et puis ensuite, effectivement, j'ai eu affaire à ces phénomènes de trafic. Alors, à travers des fonctions très diverses, puisque j'ai été juge des enfants en Seine-Saint-Denis, j'ai été juge d'instruction à Créteil, j'ai présidé des procès dans le grand banditisme. Et 80% des dossiers, c'était des gros trafics de stupes, ça c'est plus récent, hein. Donc ça, finalement, ça a jalonné les dossiers que j'ai eu à connaître pour indiquer un peu un phénomène de mesure. J'ai eu à connaître et à juger un dossier où, alors là, on est quand même dans l'extrême, hein, où un point de deal, et même on va dire tout un quartier, des points de deal qui étaient disséminés sur tout un quartier en région parisienne rapportaient 100 000 euros par jour. Voilà. Donc, on est là dans quelque chose qui est extrêmement évidemment organisé. Le grand chef, il n'était pas là hein, quand on a attrapé tout le monde. C'est le seul qui n'était pas devant nous. Ça n'a pas empêché d'être condamné, de prendre évidemment une lourde peine.
Et vous avez pu la faire exécuter ? Il était en France encore ?
Il n'était pas en France.
Et depuis, il a exécuté sa peine ou pas ?
Depuis, je l'ignore.
Ouais.
Parce que, effectivement, après, c'est plus nous qui.
Parce que ça, c'est un des points que vous mettez en évidence dans votre rapport.
Je l'ignore.
C'est qu'ils ne sont plus en France les trois quarts du temps.
Voilà. Donc, il y a effectivement cette mesure qu'il faut prendre. Hein, et moi, ce que j'ai aussi observé, c'est quand même un rajeunissement hein, des personnes qui peuvent être impliquées d'une manière ou d'une autre dans ce trafic. Rajeunissement pour plusieurs raisons. D'abord parce que, tu l'as dit Jérôme, mais je pense qu'il faut le marteler, ces organisations sont les plus enclines à prendre tous les vices du système capitaliste.
Absolument. Le rapport le dit d'ailleurs.
Ce sont les plus capitalistes parmi les capitalistes.
C'est ça.
Ils sont adaptables, mais du jour au lendemain, pratiquement. Pour mémoire, quand même, en France, le trafic de stupes, c'est 3,5 milliards, 4 milliards l'an dernier. Et on est arrivé à 4 milliards 2. Tout ça, c'est des estimations, puisque c'est pas...
Vous dites
3,5 à 6, mais effectivement, c'est une économie grise.
Alors,
donc,
arrivé à un pic, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête, en 2020, où il y a eu les confinements. Parce qu'effectivement, il y avait des livraisons à domicile. Hein. Ubérisation, tu en as parlé, Jérôme. Mais c'est très important à avoir en tête. C'est-à-dire, pour eux, la mondialisation a été très heureuse, pour reprendre le terme et le titre d'un ouvrage bien connu d'un libéral qu'on connaît aussi. Pour donner aussi un peu la mesure des choses, hein, on estime hein, en France que c'est 21 000 équivalents temps plein, les personnes qui participent au trafic. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé avec c'est l'OFAS, hein, je crois.
On a ça aussi, on nous donne 250 000 personnes qui interviennent
voilà,
globalement.
Voilà, j'ai pas terminé. 250 000 personnes qui en vivraient.
C'est ça.
C'est-à-dire que là-dedans, il y a les familles, il y a les amis, il y a etc. Évidemment, ils sont obligés de payer à un moment, quand même, tous ces trafiquants. Ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes à l'État, mais enfin, ils sont obligés d'arroser un certain nombre de gens. Et on dit que 250 000 personnes vivent de ce trafic, mais c'est 21 000 équivalents temps plein, c'est ce que j'ai pu, lire. Alors là-dedans, bah, il y a ce qu'on appelle des nourrices, hein, donc les gens qui gardent chez eux le produit, il y a les petites mains qui vendent, il y a, etc., etc.
Les gens qui transportent.
Le rajeunissement, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça fait des enfants esclaves. Je les ai vus. Des enfants dès l'âge de 12-13 ans déscolarisés, à qui, effectivement, on fait miroiter le fait que, moyennant tout de même, 10 à 12 heures de travail, et travail exténuant quand même, hein, de rester planté à vendre le maximum en un minimum de temps, 10 à 12 heures par jour à vendre à 12-13 ans, hein, et au lieu d'aller à l'école. Et ce sont, j'appelle ça moi des enfants esclaves, parce que finalement, évidemment qu'ils sont appâtés par les 100 euros qu'on va leur donner à la fin de la journée, mais en contrepartie, si je puis dire, d'abord, ils s'en sortent jamais, ou très difficilement, parce que s'ils perdent la marchandise, parce que s'ils font, ils mettent en danger le trafic, le point de deal pour une raison ou pour une autre. Parce que les policiers les ont repérés trop facilement, parce que un autre grand frère est venu leur prendre le matos, etc. Et ben, ils doivent ensuite rembourser, voilà. Et donc ils sont poursuivis finalement pendant des années et des années.
Bon, donc là on a peut-être pour conclure sur ce côté bilan, faut quand même dire aussi que ce que vous décrivez bien, c'est-à-dire cette totale adaptation au système. Et notamment à la globalisation, à la mondialisation, dès qu'il y a un chemin qui est fermé, ils ont une capacité à utiliser d'autres routes à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Ce qui fait d'ailleurs que quand un pays prend des mesures draconiennes, si le pays voisin ne coopère pas et ne travaille pas dans le même état d'esprit, ben ça retombe. On a eu ainsi comme ça une partie du circuit d'Amérique latine qui s'est modifiée et qui fait qu'aujourd'hui, les Antilles françaises et la Guyane sont particulièrement utilisées par ces mécanismes.